paix qui sont au rendez-vous sur le bon visage de Thierry Laplanche.
Il est en paix, il est serein et en plus il est bronzé. Regarde-moi ce
Je reviens du John Lanamdo,
il a la marque des lunettes de soleil, je crois.
Bonjour Oumi, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Et oui, je suis en paix cette semaine car une fois n'est pas coutume, on va parler religion et plus précisément de bouddhisme à l'occasion de la visite en Corée du Sud de l'un des plus célèbres moines et promoteurs du bouddhisme en Occident, j'ai nommé Thich Nhat Hanh.
Thich Nhat Hanh, pour ceux qui ne connaissent pas ce maître du bouddhisme, c'est un célèbre militant pour la paix originaire du Vietnam.
Oui, c'est vrai qu'on appelle aussi Thay, un mot qui signifie maître ou professeur en vietnamien, est né à Khang Mai, à une petite ville dans le centre du pays, en 1926. Il est donc dans sa 87e année. C'est en 1949, à l'âge de 23 ans, qu'il rejoint les ordres monastiques après une formation dans la branche zen du bouddhisme. Plus tard, en 1964, il fonde une université bouddhique à Saïgon et l'école de la jeunesse au service social qui réunit 10 000 travailleurs sociaux qui se rendent principalement dans les zones rurales du sud du Vietnam pour y construire des écoles ou encore des cliniques.
Je pense qu'il est important de rappeler qu'à l'époque, le Vietnam est divisé en deux au niveau du 17e parallèle, avec d'un côté le nord communiste et de l'autre le sud, soutenu par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam.
Mais oui, le nord et le sud qui s'engageaient alors dans une guerre qui allait durer 10 ans jusqu'en 1973. Notre moine, lui, tout juste de retour des États-Unis où il étudiait la religion comparée à l'université de Princeton, ne pouvait que s'opposer à ce conflit qui allait faire des millions de morts. Une opposition qui va le contraindre à quitter son pays, à s'exiler en Occident et plus particulièrement en France où il passera la plupart de son temps. Durant cette période d'exil, il va enseigner à la Sorbonne et poursuivre ses efforts en faveur de la paix en aidant les réfugiés de la guerre du Vietnam, les boat people, comme on surnomme ceux qui ont fui leur pays sur des embarcations de fortune et dont beaucoup ont péri en mer.
En France, Thich Nhat Hanh s'est installé en Dordogne où il a fondé un centre bouddhique, le village des Pruniers, où il réside toujours aujourd'hui encore.
Un village des Pruniers rassemble plus de 150 moines et nonnes de toutes nationalités et accueille aussi chaque année des milliers de visiteurs du monde entier à l'occasion des différentes retraites. Au programme des retraites méditation et santé pour éveiller son esprit et revitaliser son corps, des retraites de printemps, d'été et d'hiver qui peuvent durer jusqu'à 3 mois au cours desquels les pratiquants ou les participants peuvent suivre les enseignements de Thich Nhat Hanh. Mais les retraites du village des Pruniers s'exportent aussi à l'étranger en présence du maître bouddhiste et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui car Thay et les moines de son village sont en ce moment même en Corée du Sud pour une tournée de 15 jours à travers le pays. Un voyage qui s'inscrit dans une tournée asiatique qui les a conduits d'abord en Thaïlande le mois dernier et qui se poursuivra par un voyage à Hong Kong en fin mai.
Précisons que les bouddhistes, ou en tout cas ceux qui se déclarent bouddhistes, représentent environ un quart de la population sud-coréenne, une proportion comparable aux chrétiens, le reste de la population étant majoritairement athée. Hein. Mais la religion bouddhiste est en perte de vitesse, notamment chez les plus jeunes, et la visite de Thich Nhat Hanh, je me trompe pas, hein, vise à redonner du souffle à cette religion.
Oui, c'est la troisième fois que Nhat Hanh vient en Corée du Sud, après deux visites en 1995 et en 2003. Il a débuté son séjour par une retraite de 5 jours au temple Woljongsa, sur les pentes du mont Urdae, dans la province de Gangwon. C'est l'un des principaux temples de l'ordre Jogye, l'ordre qui représente le bouddhisme coréen traditionnel. Et mercredi et jeudi dernier, Thay est parti en retraite à l'université Jungang Sanga, près de Séoul, à Gimpo, une école fondée en 1979 par ce même ordre Jogye et qui forme les moines et les nonnes du pays. Mais les deux principaux événements à destination du grand public ont lieu ces jours-ci, vendredi, hier donc, à Busan, et lundi prochain à Séoul. Thich Nhat Hanh y donne 2 conférences sur le thème de la guérison, un thème qui me semble très en vogue en ce moment en Corée du Sud, à en juger par le nombre de livres et de publicités qui reprennent toujours le terme « healing », un anglicisme qui signifie « guérison » ou « apaisement ». Cet thème parviendra peut-être à intéresser la plus jeune génération. En tout cas, c'est un thème qui est très présent dans le bouddhisme, comme nous le rappelle Thich Nhat Hanh lors de la conférence de presse qu'il donnait à son arrivée à Séoul.
So the issue of healing is a very big issue in our society.
La guérison est un concept très important dans nos sociétés modernes. Les individus, les familles, mais aussi les partis politiques y ont recours. L'expérience nous montre que la jeune génération souffre beaucoup et a besoin de cette guérison. Dans le bouddhisme, les concepts de guérison et de transformation font partie des enseignements très concrets qui peuvent aider les jeunes à guérir et les inciter à se tourner vers la religion.
Lors de cette conférence de presse, Thaï a également évoqué le conflit intercoréen et les douleurs qu'il inflige aux familles et à la société. Il nous livre ses conseils pour ceux qui souffrent.
Je crois qu'il serait bien d'organiser une session d'écoute approfondie où les gens en souffrance auraient la chance de s'exprimer en face de personnes qui les écouteraient avec sagesse et compassion. La session pourrait être retransmise à la télévision afin que l'ensemble de la population puisse y participer. Il s'agit là d'une véritable pratique bouddhiste, se retrouver avec soi-même et écouter ses propres souffrances pour comprendre leur origine. Il faut exprimer ses souffrances sans colère, sans blâmer, ni rejeter la faute sur autrui afin que notre interlocuteur nous comprenne. Cette pratique d'écoute apporte la compréhension et la compassion, et cette compassion a le pouvoir de guérir et de transformer ceux qui souffrent. Une fois que la compréhension mutuelle et la compassion auront permis au Sud de guérir, il sera en situation d'aider le Nord à faire de même pour améliorer la situation.
Et voilà une solution bien un peu banale pour résoudre le conflit intercoréen. En attendant le grand discours de Thich Nhat Hanh à Séoul lundi, je vous propose de nous quitter sur quelques paroles du maître qui s'exprime dans la langue de Molière, une langue parmi les nombreuses qu'il maîtrise. C'est un enregistrement très récent, c'était en début d'année lors de la retraite francophone dans le village des Pruniers. On l'écoute.
C'est une pensée juste, c'est une pensée libre de toutes sortes de discriminations. C'est une pensée qui a de la compréhension et de l'amour. C'est une pensée qui peut nous nourrir, qui peut nous guérir. C'est une chose possible pour chaque pratiquant, pour dire une pensée juste, une pensée aimante, une pensée de compréhension. Et comme pratiquant, on peut produire des pensées comme ça pendant la journée. C'est bien pour notre santé, c'est bien pour la santé du monde. Et il faut une vue juste pour pouvoir produire des pensées comme ça, très saines, très nourrissantes, très guérissantes. Quand vous écrivez une lettre avec la parole aimante, le processus de guérison prend place tout de suite. Vous n'avez pas encore envoyé la lettre, mais déjà la guérison a commencé. Écrire une lettre, envoyer un email, c'est la pratique. Il faut que ce que vous dites, ce que vous écrivez, porte en elle la compassion, la non-discrimination, la compréhension, et ça va vous guérir et guérir l'autre personne.
C'était vraiment une parole très touchante.
En tout cas, moi, ça m'a touché. Il y a plein de bon sens dans ce qu'il dit, je trouve. Tu devrais t'en inspirer.
Oui. Je suis en fait un peu plus proche du bouddhisme que d'autres religions. Et donc, je suis allée voir quelques moines au temple de Chogyo, au centre-ville, la semaine dernière, à l'approche de l'activité de Bouddha. Je me sens un peu très sereine, très calme à chaque fois que je passe, même auprès d'un temple bouddhique, hein, c'est bizarre.
C'est pas étonnant, ça dégage une certaine sérénité.
Oui.
Et je pense que c'est pareil pour tous les visiteurs, ou tous nos auditeurs qui ont eu la chance de visiter un temple bouddhiste en Corée. Il règne une espèce de sérénité, quelque chose de un peu hors du temps. C'est très agréable, je trouve aussi.
Tout ce qu'il nous a conseillé, comme tu m'as dit tout à l'heure, on a besoin de ces mots qui nous seront de grande utilité pour au notre rouage, au quotidien, comme ça, parce qu'on fait tout vite, vite, tout ça. Oui.
Il a une parole très apaisante.
Mmh.
On a envie de prendre le temps de l'écouter.
Grâce à Thich Nhat Hanh, au